Libre débat. Reportages, plateaux radio ou sons glanés sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, bienvenue dans Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une émission de La Vie des Nôtres. Alors La Vie des Nôtres, c'est une émission sur Toulouse, sur Canal Sud, une émission bimensuelle faite par une bande de descendants de colonisés et de portraits, de discussions, de débats, de chroniques. Et là, c'est une émission qui a été faite en public avec Myriam Bahafou qui présentait son livre « Des paillettes sur le compost », un livre qui redéfinit les contours de l'écoféminisme avec un regard décolonial et queer. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Vie des Nôtres sur le site de Canal Sud.
À mon école, il y a deux Arabes. Ils s'appellent Omar et Mohamed. Et on est Arabes en secret. On est des Arabes et on s'appelle à nos prénoms Arabes.
Et pourquoi? Ça veut dire quoi que vous êtes des Arabes en secret?
C'est parce qu'on veut pas que les autres ils le sachent et on se retrouve en secret tous les trois pour dire des choses arabes.
Et pourquoi vous voulez pas que les autres le sachent?
Parce que tout le monde croit qu'on est des Français.
Ah oui?
Oui.
Et du coup vous retrouvez entre vous pour vous souvenir que vous êtes arabe?
Oui, tous les jours, sauf les vacances.
Et t'aimes bien?
Oui. Ok. C'est trop bien.
On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on devient pas du même game, marocaine de Ketaman, tu pas la même merde.
La seule façon de combattre le racisme, la xénophobie, c'est de remettre la mémoire en place et de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, ce qui existe.
L'histoire est racontée par une bande de mythos.
Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute, un pays sans justice est un pays en danger. La France est aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités et doit nous donner en tout cas ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on on soulève le peuple, le pays, on le fera.
C'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh, c'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh.
Aujourd'hui, on est dans les locaux de Maison Blanche en compagnie de Myriam Bahafou qui est là à Toulouse pour nous parler de son livre fraîchement paru il y a 2 semaines, c'est ça?
Oui, j'ai hésité.
C'est abusé.
Le 6 octobre, je crois.
Le 6 octobre, donc, oui. Je suis allée en librairie pour aller le chercher et il était paru la veille.
Oh, ouais. Wow, c'est sexy.
Et donc, il s'appelle « Des paillettes dans le compost ». Sur le compost. Je me suis entraînée en plus. Et du coup, l'émission est animée par La Vie des Nôtres, qu'on peut écouter sur Canal Sud 92.2 et l'asso Les Grandes Oreilles qui met en place le plateau technique. Est-ce que Myriam, tu peux dire 2 mots sur La Vie des Nôtres?
Alors, La Vie des Nôtres, c'est une émission, mixité choisie pour dire les gros mots, qu'entre personnes non blanches issues de la colonisation et ou de l'immigration. Ou avant, alors une fois tous les 2 mois, maintenant c'est plutôt une fois par mois, on essaye. Pendant 1h30, on fait le portrait d'une personne issue de l'immigration et ou de la colonisation et on discute des sujets qui sont liés à sa condition, à ses envies.
Super explication, petite série de portraits dans nos émissions. Alors cet après-midi, l'émission est en public. Est-ce que le public, on peut vous entendre?
Ouais.
Bien, bien, bonne énergie pour un jeudi 16h30. Bah, Myriam, je commence à bien te connaître parce que je t'avais rencontrée pour la première fois sur le festival écoféministe Sauvageonne qui avait eu lieu à Toulouse, organisé par Mixart Myris. C'était pour une table ronde, décoloniser les corps territoires. Et vous aviez fait une entrée spectaculaire avec toutes les personnes, enfin pas toutes les personnes, mais toutes les meufs qui participaient à cette table ronde pour dénoncer des trucs qui s'étaient passés pendant le festival.
Oui, après j'aime pas trop commencer un propos en parlant d'ennemis politiques, je trouve que c'est trop leur donner d'attention et de crédit. Mais en tout cas, ce qui était très beau dans ce moment, c'était qu'on s'est très vite retrouvés entre personnes marginalisées et minorisées. Sous plein d'angles, en fait. Donc, il y avait les personnes trans, les personnes racisées, des personnes non valides. Et en fait, on s'est juste retrouvés à une table en mode « Ok, il y a quelque chose qui va vraiment pas dans ce festival et qui est vraiment pas écoféministe, en fait. Donc, il va falloir le dire. » Et vraiment, peut-être 2 heures, quoi, on a écrit une espèce de manifeste comme ça. Moi, j'étais en train de manger à côté. Il y avait des taches d'huile sur la feuille. Et donc, pendant cette table ronde-là, qui s'appelait effectivement décoloniser les... Enfin, il y avait absolument rien de décolonial, en fait, hein, dans tout ce festival. On est arrivé avec beaucoup de verve, beaucoup de confiance et beaucoup de colère. Et en fait, on a récité ce texte et ça a fait un très beau moment. Beaucoup de gens ont répondu par... Ouais, du lien ou des trucs positifs, en fait, à ça. Et par la suite, le texte est resté. Et je trouve que ça fait des belles archives aussi. Donc, il y a tout un truc de contestation dans un espace qui était censé être un espace, je mets des gros guillemets, on le voit pas au micro, safe, qui, au final, a été déboulonné très vite par des personnes qui ont pu se donner la force de le faire au moment même, en fait, où ça arrivait. Et ça, c'est rare. En général, quand tu te prends de la violence, c'est rare que tu arrives à vraiment activer les mécanismes, identifier le truc, être en groupe et produire quelque chose pour dire là c'est pas ok.
Oui, complètement. Et... C'était hyper impressionnant de se dire qu'en plein milieu du truc, vous aviez réussi à réagir pendant et à nous présenter ça pendant un atelier, une discussion. Ça donnait un peu le ton. On était contents d'être là. Voilà. Ouais. Et je t'ai vu aussi lors de ta conférence sur l'écoféminisme à Pamiers, en Ariège. Tu es partout.
Pas encore.
Je t'ai vu à Paris aussi. Et pour un festival queer racisé.
J'apprends des choses hein, en l'écoutant parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, je suis là, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc voilà, raconte-moi ma vie, en fait, c'est génial.
C'est l'avantage d'avoir une très mauvaise mémoire comme moi également. Ça fait des moments de suspense où on ne sait plus de quoi on a parlé hier. Et ça fait des moments où on redécouvre sa vie. Et bah, aussi, on a fait ton portrait dans le premier volet sur l'écologie de la vie des nôtres. Bon, le premier, il y en a eu un deuxième, on ne sait pas combien il va y en avoir, parce que ça va être un peu un troisième, là. Voilà. Et bon, alors, je vais te poser la question qui fâche. Qui es-tu ? Peux-tu te définir ?
Je ne sais pas si je peux me définir. Et je vais le faire à un plan très non existentiel, hein, parce que sinon les gens de cette salle vont juste mourir, en fait, si je commence à vouloir me définir philosophiquement, intimement, genre on veut pas ça, c'est pas une séance de psychanalyse, en fait, c'est une émission de radio, que je suis déjà une meuf, je pense, une meuf cis, queer, quelque chose comme ça, en tout cas, ou en tout cas je déroge au régime hétérosexuel, pour aller très vite. Mais je sais pas exactement où, j'ai du mal avec ce mot de queer, je sais pas trop où le mettre. Bref, j'avais dit que je ferais pas un truc de psychanalyse. Je suis pauvre, en tout cas je suis née dans une classe sociale qu'on dit pauvre, et j'ai gardé ça, et c'est hyper important aujourd'hui dans mon militantisme. Je suis travailleuse du sexe depuis 10 ans maintenant. Très grande carrière, la plus grande. Je suis chercheuse, doctorante en philosophie, en études de féministe. Je suis militante à fond. Je suis pour transformation sociale radicale, révolution... changement de paradigme, tournant épistémologique, décolonial, féministe, complètement. Pour refonder toute la grammaire écologique du monde dans lequel on vit, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et je suis extrêmement heureuse d'y participer d'une manière ou d'une autre dans tout ce globibulga militant, autant dans la pensée et dans l'intellect que vraiment sur le terrain, quoi. Puis voilà, je pense que c'est bien ça. Après, on va s'arrêter là. Tu vois, je me suis limitée.
Ça marche. Est-ce que tu peux te définir sur un point de vue racial, s'il te plaît ?
Ouais, je suis marocaine de mon père, tunisienne de ma mère, seconde génération d'immigration. Je sais pas si on dit ça. Mon père est né au Maroc, ma mère est née en France, et j'ai vécu, donc comme beaucoup, dans cette double espace en fait, et finalement qui crée une énorme fracture où ni au bled en fait je suis chez moi et ni en France je suis chez moi. J'ai grandi, je suis devenue une femme, en tout cas aux yeux de la société, au moment où c'était un gros tournant islamophobe, en fait, dans les années 2000, notamment. Je vivais en quartier aussi. Donc, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée un peu arabe, en fait. Avant, j'avais pas tellement, je sentais pas tellement ça, parce que de toute façon, je vivais dans un quartier où il y avait que des Arabes et des Noirs avec moi, donc la question se posait pas trop. Mais donc voilà, les attentats, machin, tout ça. En fait, la catégorie arabe est devenue une catégorie musulmane et arabe d'ailleurs, hein, complètement liée, dangereuse, difficile. Ma mère était voilée à ce moment-là. C'était ultra violent du jour au lendemain, c'était hyper compliqué, quoi. Et moi, j'ai dû grandir à ce moment-là. Et je suis devenue, du coup, sexualisée, je dirais. Ouais, en tout cas, vraiment, je représentais un endroit sexualisé dans l'espace public sous cette catégorie ou sous ce mot-là de beurette qui a beaucoup prévalu aussi dans ces années-là, qui continue d'exister d'ailleurs, hein, de plein de manières. Donc voilà, c'est ça un peu mes bail ratio et comment je me démêle avec ça aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a absolument rien de spécial ou d'extraordinaire dans mon parcours comparé à plein d'autres parcours de personnes issues de l'immigration où je suis assez peu à ma place, quoi. Et j'ai fait le deuil de ça aussi. Et ça, par contre, c'est assez nouveau. De me dire qu'en fait, je n'aurai pas d'endroit où je vais me sentir complètement, absolument à la maison, en fait. Parce que ce truc-là a été brisé quelque part et qu'en fait, je dois maintenant habiter ce trouble-là et le tenir avec moi et être dans cette tension-là constante. C'est pour ça que voilà, j'ai habité en France. Là, je traverse beaucoup d'endroits. J'ai vécu dans des ZAD. J'ai envie d'être nomade. Là, j'habite au Canada. Du coup, je me suis un peu distanciée de cette espèce de promesse, tu vois, de terre promise, en fait, de « ok, ça va ». Quelque chose d'harmonieux va se faire, en fait. Non, je ne crois pas que ça va arriver. Et je pense que je vais vivre constamment dans cette fracture-là. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, aussi, pour situer, c'est pas du tout hors sujet, parce que dans notre volet, on faisait ton portrait, tu parlais du lien entre écologie et lien au territoire. Du coup, ce truc de, je sais pas, de l'écologie, de l'environnementalisme, enfin, je sais pas quel terme mettre dessus, c'est aussi se sentir appartenir à un territoire. C'est intéressant de voir où t'en es maintenant. Moi-même, ouais. Je suis en train de faire ce deuil-là. Nous allons faire une séance de psychanalyse collective. Voilà, c'est annoncé. Alors, moi, j'ai bien aimé ton livre. J'ai beaucoup aimé. Je pensais lire un essai philosophique et politique. Tu le définis plutôt comme un patchwork. Je ne sais pas si tu utilises le mot, mais en tout cas, c'est un peu ce que dit ta description. Le ton est léger, il est facile à lire, il est digeste. J'ai trouvé ça rigolo, du coup, à chaque fin de paragraphe, on voit une page de « à lire, à voir, à écouter », du coup, ce qui permet aux gens de pouvoir aller chercher d'autres infos derrière. Et le sommaire aussi, parce que j'ai commencé par lire l'intro et le sommaire, je vais vous lire quelques titres de sommaire, parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, donc on est dans un livre, enfin, en tout cas, moi, je m'attends à un livre sur l'écoféminisme. Et donc, le premier chapitre, c'est « Il y a des performances de genre comme il y a des performances de classe pour un écoféminisme anticapitaliste ». Donc, j'étais un peu étonnée. On commence par ça, c'est pas banal. Bon. Et après, le deuxième chapitre...
Ça va crescendo, en fait.
On fait l'intégrale et l'interfessier ? La force ambivalente des espaces féminins cosmétiques. Donc voilà, déjà le ton est donné. Déjà dès le sommaire, on voit qu'on est sur un ton léger et sur des axes qui ne sont pas forcément habituels. Et du coup, je voulais que tu nous parles un peu de ton adresse, de à qui tu parles, de c'est qui tes lecteurs, à qui tu parles. Parce qu'on voit, je vais lire un petit peu la première note de bas de page. Aux personnes qui lisent. Et liront les notes de bas de page. Je vous vois. Je vous reconnais. Je vous remercie. Et ben, j'ai été hyper touchée par ça.
Yes,
parce que je lis les notes de bas de page depuis quelques années. Et on y trouve beaucoup de choses, en effet.
Ah, mais je pense que, pour le coup, je suis très non anti-binaire sur plein de choses. Mais je pense qu'on peut vraiment catégoriser le monde en deux groupes. C'est eux qui lisent les notes de bas de page. Et c'est eux qui ne lisent pas les notes de bas de page. Et en fait, en faisant une thèse, je me suis aperçue de tous les conflits universitaire, en fait, moi je connaissais pas ça du tout, hein, mais il y a des fils de discussion sur des sites où les gens se prennent la tête, mais vénère, hein, en fait, pour savoir quelle longueur doit être une note de bas de page. Est-ce que si la note de bas de page dépasse sur l'autre page, c'est acceptable pour le lecteur ou la lectrice? Combien de notes de bas de page t'as droit en tout? Enfin bref, c'est un vrai. Anyway. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, c'est un vrai conflit. Même, je pense, l'ONU ne pourrait pas régler ça. Là, aujourd'hui, c'est extrême. Donc, non, et moi, les notes de bas de page, en fait, je crois que c'est aussi une manière de penser que j'ai toujours en à côté ou en aparté, en fait. Et ça, c'est très lié à, du coup, ce que j'ai identifié comme étant un gros trouble de l'attention avec lequel j'essaie de cohabiter au quotidien. Mais du coup, les notes de bas de page, c'est un bel espace pour moi pour comme dire des choses, pas forcément les dire complètement, les insérer, repartir. Mais par contre, c'est super chiant à écrire. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout livre en mettant les notes de bas de page en disant ici, il faudra dire ça, ici, il faudra dire ça. Et donc, tu te retrouves en juin avec le manuscrit à faire dans 2 semaines et à devoir écrire toutes tes notes de bas de page. Et souvent, c'est des références. Donc, tu dois trouver la date de publication. C'était horrible. Donc, plus jamais, en fait, j'écris des notes de bas de page comme ça. Je les écrirai au fur et à mesure, je pense. Mais pardon. Et du coup, pour répondre à ça, je ne m'adresse pas aux universitaires. Hein. Du coup, dans ce livre, c'était pas du tout ça l'idée avec les notes de bas de page. C'était assez dur de savoir à qui je m'adressais vraiment. En tout cas, je crois que je sais à qui je m'adresse pas. Ça, c'est peut-être un bon début. Je m'adresse pas au corpus écoféministe mainstream, en tout cas. C'est-à-dire toute cette production théorique, très conceptuelle, très historique. En fait, c'est ça, les livres sur les écoféminismes aujourd'hui. En fait, il y a 2 catégories pour moi. Il y a vraiment la philosophie, l'histoire et les idées, en fait. Une histoire des idées. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, en fait. Mais pour moi, ce n'est pas du tout ça dont je parle. Et il y a toute la catégorie, alors là, développement personnel, féminin sacré, retrouver votre yoni intérieur, blablabla, tout ça. Et ces 2 sphères-là, en fait, pour moi, elles ratent complètement une dimension... Ouais, je sais pas, hyper populaire, hyper incarnée, en fait. C'est ouf parce que les écoféministes ne parlent que de corps, en fait. Hein. Ça n'est que ça. Et je trouve ça assez incroyable de faire des livres de peut-être 300, 400 pages en parlant du corps, mais d'une manière abstraite et théorique. Enfin, ça, c'est... je sais pas comment c'est possible. Du coup, il y a très peu d'autoristes, en fait, qui se mettent en danger dans les écoféminismes. Et ça me déçoit. Ça me déçoit beaucoup parce que pour moi, l'exigence, elle est écoféministe. Elle est à l'endroit de... Il faut que tu mettes ton corps en danger, en fait. Et il faut que t'aies peur, un peu. Et moi, c'est ce qui s'est passé pendant ce livre. Parce que j'ai dit des trucs que j'ai jamais écrits. Enfin, de toute façon, c'était mon premier livre, donc. Mais c'est pas des sujets dont j'ai l'habitude de parler, de toute façon. Genre la classe, tu vois, j'y viendrai peut-être après, mais c'est un énorme truc, en fait, dans qui je suis aujourd'hui. Et donc, la destination de ce livre était vraiment à destination d'un public militant, je dirais. Donc vraiment, les milieux militants. Alors là, ça va être plusieurs. Parce que je pense qu'il y avait vraiment les milieux décoloniaux antiracistes qui, pour moi, ont besoin d'outils francophones. Il y a vraiment un truc aussi de dire c'est écrit en français, pour se saisir de la question écologique, entre gros guillemets, enfin, dans des termes assez larges, et aussi à des espaces, alors de ZAD, écologistes, milieux radicaux, milieux écologie politique, blancs, pour dire, en fait, il y a une pensée décoloniale, antiraciste, incarnée, féministe dans l'écologie. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc l'idée, en fait, c'était plutôt d'écrire ce livre comme un outil, ou comme une boussole, ou de voir ce que ça faisait, plutôt que de répondre à des questions. Parce qu'en fait, je réponds à peu de questions. J'en pose beaucoup, je crois. Chaque chapitre, c'est vraiment... Pff, voici un champ, en fait. Voici un champ à fouiller, à étudier. Et c'est beaucoup plus intéressant que l'histoire, tu vois, de l'écologie du 19e siècle. En fait, c'est lié, mais on ne peut plus rester à ce stade, en fait. Et c'est pour ça que les gens sont complètement déconnectés des questions écologiques. Même le mot écologie, en fait, il ne me satisfait pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ramener ça dans le corps. Et c'est pour ça que pour moi, de parler d'épilation, de bouffer un steak, en fait, c'est plus écologique que de parler de l'écologie même aujourd'hui, selon où tu te places, quoi. Donc ouais, je dirais public militant en général. Et après, oui, l'accessibilité, moi, je suis hyper heureuse. Enfin, c'était hyper important pour moi de faire un livre qui puisse être lu par pas mal de gens, en fait. Notamment des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'écoféminisme, des gens qui n'étaient pas politisés à cet endroit. Enfin, tu vois, je prends l'exemple de mes sœurs systématiquement parce qu'elles ne lisent pas, en fait, ce genre de livre. Elles l'ont lu en quelques jours, quoi. Genre, c'est exceptionnel pour mes sœurs de lire un livre en quelques jours. Et je trouvais ça hyper beau qu'à cet endroit, ça puisse être compris, que les personnes puissent être touchées, y répondre. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme mettre à disposition, quoi. Et dans les références aussi, tu vois, à lire, à écouter. En fait, moi, mon taf dans ce livre, ça a été de faciliter. C'est comme ça que je le dirais. Je me sens facilitatrice de l'écoféminisme.
Ok. Eh bien, alors, moi, j'avais envie de dire que ma prochaine question, c'était pourquoi tu as écrit ce livre. Mais j'ai l'impression que tu y as déjà répondu. Si tu as des choses à ajouter, tu peux...
Ce que j'ai dit déjà, donc, oui, répondre à quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'il y avait aussi une partie très thérapeutique, hein, en fait, dans cette écriture, parce qu'elle est quand même assez incarnée. Et je suis revenue dans des endroits de ma vie, enfin voilà, grandir en quartier, qu'on dit ghetto, machin, père alcoolique, racisme systémique, violence, harcèlement de rue. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même assez trash, en fait, et dans lesquels j'avais jamais vraiment fouillé. Enfin, tu vois, je me considérais juste comme féministe à partir de ces endroits-là. Et là, de revenir prendre ça et de les retravailler dans le livre, en fait, je crois que ça m'a fait comme faire la paix un peu avec certains trucs, ou acter que ça existait et me dire, voilà, en fait, je vis avec ça. Donc ouais, il y avait un peu un truc personnel, thérapeutique, narcissique, arrogant, peut-être, très probablement, dans l'idée de ce livre, mais beaucoup, comme j'ai dit, de donner ça comme un outil pour déranger en fait un ordre très lisse qui m'agace au plus haut point dans les écoféminismes aujourd'hui.
Bon, alors du coup, ça m'amène à une question que j'avais réservée pour la fin. Mais, à plusieurs moments, tu parles de joie, mais tu en parles de manière très différente. Il y a un truc de... À un moment donné, tu as l'air de balancer contre le mur la joie des milieux féministes. Et à d'autres moments, c'est quand même quelque chose que tu défends vachement. En tout cas, tu défends un truc de bouillonnement, de débordement... Que tu veux nous en parler ?
Oui, oui, ça, je vais essayer d'être rapide, mais ça va être difficile. non, en tout cas, pour la joie, pour moi, il y a différents types de joie. Après, le mot joie, il m'est cher. Donc, c'est plutôt un mot positif pour moi et c'est un mot que j'ai tendance à utiliser et réutiliser. Mais disons qu'il y a quelque chose, encore une fois, d'assez lisse et factice et sage pour moi dans les écoféminismes mainstream. Typiquement, quand je dis écoféminisme mainstream, c'est vraiment les idées. D'harmonie avec la nature, de retrouver... Alors, pas nécessairement des trucs super essentialistes non plus, hein, mais de retrouver un état un peu de paix, en fait, avec le vivant, ou d'harmonie, ou de continuité. En fait, tout ça, pour moi, c'est du bullshit total. En fait, je pense qu'au contraire, ça fuit, en fait, la violence. Et que tant qu'on n'a pas regardé la violence et qu'on se sent pas contaminé, en fait, par cette violence, écologiquement, on n'arrivera absolument à rien, en fait, à part à retourner dans des narrations qui nous maintiennent dans cette espèce d'innocence, en fait, d'innocence primitive, qui est hyper dangereuse, en fait, hein, à plein d'endroits. Du coup, pour moi, la joie, en fait, c'est de pouvoir être dans ces espaces de violence, mais de façon... c'est même pas beau, tu vois, c'est même pas que ça doit être beau, que ça doit être récompensé ou positif, c'est même pas ça. La joie, c'est vraiment de l'habiter pleinement. Et de bouillonner, de foisonner et de vivre avec. Et les écoféministes, donc historiquement, ils se sont toujours manifestés par des grands trucs très théâtraux, en fait. Hein. Les manifs écoféministes, elles ressemblaient à rien de ce qui existait dans les années 80-90. Les écoféminismes décoloniaux, ils œuvraient particulièrement à partir de la question des émotions. De crier, de danser, de poser ces émotions sur la scène politique et de dire que ça a un rôle et que c'est pertinent, en fait. Alors que les écoféminismes, voilà, très mainstream aujourd'hui, vont avoir tendance à être dans un truc de gestion, en fait, des de résilience. Et, ah, je déteste ce mot. La résilience écologique, en fait. Ça veut dire, en gros, vous pouvez vous bouffer toute la violence du monde. Et, mais c'est pas grave, il faut être résilient. Enfin, tu vois, c'est presque un vocabulaire capitaliste, en fait, pour moi aujourd'hui. Donc, ouais, la joie, en fait, c'est de pouvoir habiter ces espaces-là de dissension, de vraiment de. Tu dois faire le grand écart entre plusieurs trucs. Mais de les porter, en fait, jusqu'au bout. Et de dire que ça nous concerne et qu'on peut les... Ouais, qu'on peut briller avec, en fait. Qu'on peut shiner avec, qu'on peut être beau et belle avec, en fait. Et sans souscrire à une vision de la beauté qui serait encore tributaire de tous ces trucs d'innocence, je sais pas, de paradigme du naturel, de l'harmonie, auquel je crois pas trop.
Que tu parlais de, là, de lien avec la nature, le vivant, les animaux qui devraient... Du coup, faire un truc de paix, etc. Alors déjà, moi, j'ai envie que tu me parles de ton lien avec les animaux.
Wow.
Ou la nature, le vivant. Et est-ce que, du coup, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre de ce que tu viens de dire aussi, que pour toi, le lien avec la nature, le vivant, c'est le lien avec son corps et ses émotions ?
Ouais, absolument. En fait, la nature, c'est même pas un mot que j'utilise maintenant. Quasiment pas. J'essaye de vraiment pas, parce que ça n'a aucun sens. Le vivant, ça me fait chier parce qu'on parle pas des morts. Tu vois, donc il y a vraiment un manque à un endroit. Et pour moi, la question des morts et des mortes autour de nous, de comment on enterre, comment on s'endeuille, comment on honore, comment on se relie à des mémoires de morts et de mortes invisibles, comment on travaille en fait tous ces espaces-là qui sont des espaces spirituels. Peut-être qu'on en parlera ou pas, mais en tout cas, pour moi, dans les écoféminismes, c'est non négociable en fait aujourd'hui. Et du coup, on manque de mots en fait. En français, on manque vraiment de mots. Et pour le coup, là, les penseureuses décoloniaux ou décoloniales, elles ont déjà sorti des trucs hyper intéressants. Enfin, tu vois, le sentir pensar. En Amérique latine, en Amérique du Sud, enfin, toutes ces pensées-là qui sont à la fois dans une théorisation et en même temps dans vraiment habiter le corps en tant qu'élément connecté à la terre, en fait, tout le temps. Que corps mourant, que corps vivant, que corps en train de manger, de déféquer. En fait, ça, pour moi, c'est là, c'est juste dans cet endroit-là circonscrit qu'on peut commencer à parler des écoféminismes. Et donc, plus j'avance et plus je suis en train de me libérer de toutes les grandes théories, je crois. Mais c'est dur hein, de faire ça, parce que c'est précarisant, en fait, pour une pensée. De dire j'arrête de penser en termes d'humanité ou d'universalisme, de sauver les prochaines générations. Enfin, ça, tu vois, c'est le vocabulaire de l'écologie, en fait. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants demain ? En fait, moi, je suis plus du tout là-dedans. Je suis plus dans un truc de comment on arrive juste à avoir des rapports sains entre tous les individus, humains ou non, en fait. Et c'est là que la question des animaux ou du vivant ou je sais pas quoi, elle fait sens. Mais presque, en fait, ces distinctions, pour moi, elles sont de moins en moins pertinentes, en fait. Donc, tu vois, le lien aux morts, le lien aux animaux, le lien au végétal, en fait, c'est tout lié, quoi. Du coup, de faire cette distinction entre humains, nature, animaux, c'est déjà, pour moi, en fait, être tributaire de trucs qui sont trop, trop lourds, en fait. Je crois que ça m'appesantit.
Ça te pèse.
Voilà, merci.
Eh bien, d'accord. On pourrait parler de spiritualité un moment dans l'émission, parce que c'est un des chapitres de ton livre. Je propose qu'on mette une petite musique.
Une petite musique, DJ.
Je me suis toujours relevé. J'suis tombé des milliers de fois, mais je me suis toujours relevé. Relevé, 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 relevé. Les défis de la vie, les défis de nos nuits intérieures. Persévérance et courage sont mes drapeaux. Je me bats comme un dragon. Je suis 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 tombé des milliers de fois, mais je me suis toujours relevé. Je suis tombé des milliers de fois, mais je me suis toujours relevé. Relevé, 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 relevé. Tel un dragon au champ de bataille, je me suis toujours relevé. Tel un dragon prêt à voler de nouveau. Je me suis toujours relevé, 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 relevé. Tel un dragon, j'ai combattu sans renier mes valeurs. Persévérance et courage sont mes drapeaux. Je me bats comme un dragon, je suis un dragon, je suis un dragon, je suis un dragon, je suis un dragon.
Alors nous voici de retour sur cette émission spéciale pour la présentation du livre des paillettes sur le compost. Eh oui. Et de Myriam Bahafou qui est avec nous pour en parler. Donc dans la première série de questions, tu disais comment les écoféministes qui ne parlaient que d'historique et d'histoire des idées, c'était nul. Du coup, je vais saper mes questions sur la question, sur l'historique et tout.
En fait, peut-être si je peux juste dire un tout petit truc là-dessus. Vas-y. En fait, c'est pas que c'est nul. Moi, je trouve ça hyper important de retracer les mémoires écoféministes qu'on a, notamment dans un contexte transnational, parce que du coup, ça nous force à voir la question décoloniale, en fait. Genre, on ne peut pas faire l'économie de cette question une fois qu'on a ces histoires. Mais l'écueil, en fait, de ça, c'est que je crois que ça permet à pas mal de personnes, notamment des personnes, des théoriciennes blanches, en fait, de fuir la question écoféministe au sein même de leur territoire, en fait. Moi, tu vois, j'adorerais qu'on parle d'écoféminisme à Saint-Denis, à Toulouse. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas que c'est pas intéressant d'entendre les récits du mouvement Chipko en Inde ou des darons qui se battent contre Monsanto en Amérique latine, tu vois. Mais c'est en faisant ça, en fait, presque on exotise le débat, on le distancie. Et finalement, la question écologique n'est qu'une question, tu vois, des Suds. Tu vois, ce grand terme de « oh, les Suds ». Enfin, tu vois, était là. Bah non, en fait, le racisme environnemental, ça existe chez nous. L'accès aux ressources, c'est hyper local, quoi. Et dans ce livre, il y a vraiment l'idée de dire non seulement c'est local, mais c'est aussi super individuel. Donc voilà, peut-être juste de recalibrer en fait un discours qui aujourd'hui en France en tout cas n'existe pas. Donc c'est pas d'invalider, mais c'est de dire que c'est profondément incomplet et presque ça peut être utilisé ou instrumentalisé dans un processus raciste de production de savoir.
Ça m'amène assez naturellement à une question qui est mon étonnement par ton premier chapitre qui parle de classe sociale, donc dans un livre sur l'écoféminisme. J'étais un peu sidérée, alors que je connais déjà ta pensée. C'est, en tout cas, j'ai trouvé ça osé. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix-là ? Qu'est-ce qui l'amène ?
Alors, c'était pas mon choix, d'ailleurs. En fait, tous les chapitres ont été écrits pas du tout dans cet ordre. au début. Ça, c'est le fabuleux rôle des éditrices, en fait. En l'occurrence, deux éditrices qui ont fait un énorme taf de « Non, Myriam, ça, il faut le mettre là, ça, il faut le... » Pour moi, le cœur du livre, par exemple, le chapitre, je ne vais pas dire le plus important, mais celui auquel je tenais le plus, c'était celui sur les salopes, tu vois. Et il est au milieu du livre. Je crois que c'est peut-être le quatrième ou un truc comme ça. Et du coup, je voulais que ça fasse comme ça, tu vois. Mais au début, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais attends, c'est hyper inattendu, c'est un truc sur les écoféministes, mais tu commences par parler de classe sociale, en fait. » Et pour moi, c'était presque pas négociable quoi, de commencer par ça. Parce que je crois que dans les milieux militants, alors là, c'est dur de dire milieu militant parce que ça couvre tellement de réalités. Et en tout cas, donc, je parlais que ceux que je connais. Et donc, beaucoup des milieux militants écologistes radicaux, quoi. Il y a énormément cette prégnance de la question du genre. Donc moi, je peux tout à fait dire que le féminisme, par exemple, c'est devenu un truc incontournable, en fait, dans les milieux. Après, je parle pas vraiment des milieux institutionnels ou quoi. Hein. Je te parle des espaces de contestation, ZAD, enfin, tu vois, où on bricole de l'alternative. En général, la question féministe, c'est difficile de passer à côté. La question de la race, bah, pour le coup, il y a quasiment que des blancs. Donc ça, c'est rarement questionné, mais en tout cas, quand t'arrives et que tu poses ces questions, elles existent. Enfin, moi, c'était le cas et ça existait. Et il y a de plus en plus un vrai intérêt antiraciste, décolonial. Enfin, je vois des ponts se créer qui sont hyper intéressants, notamment avec le boom de l'écologie décoloniale en France il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Mais par contre, la classe, ça me paraissait être un truc hyper difficile. Genre, j'avais des amis, des potes, où en fait, j'avais pas du tout conscience de où est-ce qu'elle se situait sur la cartographie de la classe, quoi. Et j'étais là, c'est super bizarre parce qu'en fait, ça définit vachement de choses de toi. Ça définit ton langage, ça définit tes références, ça définit en fait les valeurs que tu mets dans des trucs tout simples comme le travail, comme la famille, comme... Et en fait, en faisant ça, en réfléchissant à ça, je me suis dit, ok, en fait, donc moi, mon écologie ou mon écoféminisme, il n'a pas du tout la même valeur, étant donné que je suis née donc, dans un milieu pauvre. Et d'ailleurs, pareil, hein, moi, je trouve que c'est... Bon, c'est intéressant qu'on ait ces termes-là, mais en général, on dit classe populaire ou classe modeste. Ou... Je trouve que c'est bien, mais en fait, quand tu nais pauvre, personne ne te dit ça. Hein. T'es juste pauvre, en fait, tu vois. Et donc, moi, il y avait vraiment l'idée de se réapproprier ce mot. Dire, en fait, ouais, je suis pauvre, je suis née pauvre, et ma culture, c'est une culture de pauvre, même. Tu vois, donc c'est... Et donc, la question de la pauvreté, elle dépasse complètement le compte en banque. Hein, et combien t'as de sous sur... Enfin, c'est vraiment une culture et un héritage, en fait. Et du coup, comment tu te saisis de ça et quel type d'écologie, en fait, ça va donner ensuite? Et moi, donc, typiquement, toute ma vie en tant que pauvre, quoi, élevée dans un endroit, enfin, voilà, HLM, quartier, j'aimerais bien que ça soit pas cliché, malheureusement, ça l'est. Mon objectif ultime, notamment quand t'es issu de l'immigration et que tes parents, en fait, ont galéré pour venir en France et t'offrir, en fait, ce que elles n'auraient même pas pu rêver... L'anticapitalisme n'est pas le même, en fait. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai été élevée dans l'idée que la réussite, elle ne peut que être capitaliste, en fait. Tous les trucs alternatifs et tout, c'était genre, ok, pour ceux qui ont le temps, ceux qui ont le luxe de... Nous, en fait, on a tellement galéré que t'as pas... si on te propose un poste, tu vas pas le refuser, en fait. Donc, tu vois, tout ce truc de gagner de l'argent, utiliser de l'argent, prendre place dans un circuit, en fait, capitaliste, ne veut pas dire la même chose selon d'où tu viens en termes de classe, mais aussi en termes de race, en fait. Dire que la revanche, tu vois, la réussite, en fait, dans un contexte néolibéral, elle a une valeur différente selon d'où tu viens. Du coup, en ayant ça, et en arrivant dans des milieux écolos où, en fait, globalement, la plupart sont de classe, moyenne sup, en gros, des bourgeois, quoi... en fait, elles, eux, viennent dans des événements écolos, font leur bail, mais en fait, demain, s'il y a un problème, papa, maman, ils ont leur petite maison de campagne et c'est cool, en fait. Et moi, ça, c'est, il faut en parler, en fait, à un moment. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut genre cancel tout ça. C'est pas ça le propos, c'est de dire posons-le sur la table. Dire, tu veux créer une communauté soutenable? Ok, tes parents, quand ils vont mourir, ils vont te laisser combien d'héritage? Bah, en fait, ouais. Ça va définir la manière dont on va militer ensemble, en fait. Parce que si toi, t'as 100 000 boules dans 20 ans parce que papy ou mamie machin, moi, en fait, je sais même pas où ma mère, elle va habiter quand elle aura plus de retraite. Donc évidemment qu'avoir un poste dans un truc capitaliste et tout, c'est pas vendre mon âme au diable, en fait. C'est au contraire un truc de survie identitaire par rapport à ma classe, par rapport à ma race. Et ça, en fait, j'ai intérêt à le porter. Parce que, et pareil, tu vois, pour tous les trucs de gagner de l'argent, moi, le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent dans ma vie, donc ce n'était pas du tout par un salariat normé ou quoi, j'ai tout de suite vu, en fait, que ma famille... T'es pas seule, en fait, quand tu gagnes de l'argent. T'envoies de l'argent au bled, t'envoies l'argent à la famille, à la maison. Et en fait, directement, ta place sociale et l'argent que tu gagnes, il est directement partagé, en fait. Les trajectoires très individualistes, c'est des trajectoires de bourgeois. Donc évidemment qu'ils peuvent totalement dire du jour au lendemain, oui, je vais me convertir à la permaculture et je vais aller en Inde pour découvrir la vie. Non, mais tu vois, c'est pas du tout la même portée. Moi, si je fais ça, en fait, concrètement, c'est-à-dire que je laisse tomber ma mère et mes sœurs, en fait, avec un revenu tous les mois. Donc voilà, c'était juste de recalibrer ça et dire, ok, donc vous pouvez plus penser que l'anticapitalisme a des valeurs universelles, en fait. Et même vos trucs marxistes, prolétaires et tout, certes, tu vois, ok, mais il y a des endroits qui sont des impensés, en fait, pour nous. Et moi, notamment, avec tout mon attirail, alors voilà, moi, c'est... j'ai toujours été très attirée par le luxe, les belles choses, bien manger. Je suis incapable de boire de la piquette si on va partager un verre de vin à un moment. Je me suis embourgeoisée très fort à des endroits. Et j'ai pas honte de le dire, en fait, vraiment, parce que ça constituait une réussite à un endroit et que je suis capable de retravailler ça sans avoir à tout jeter, en fait. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle est horrible, cette expression, en fait. Elle est assez trash. Donc voilà, comment négocier en fait dans ces espaces en disant j'ai été inculquée dans ces valeurs-là, je les porte parce qu'en fait c'est des endroits de survie et identitaires et dont j'ai besoin pour me lier à ma famille. Parce qu'en fait, si je me départis de ça, demain j'ai plus rien à faire à la maison. Enfin, en fait, j'ai plus rien en commun avec les gens avec qui j'ai grandi en fait. Je peux pas faire comme si ça n'avait pas eu d'impact. C'est hypocrite en fait de faire ça. Donc je dois vivre avec cette espèce de tension. Et comment la retravailler dans des espaces qui sont ouvertement anticapitalistes ? Parce que pour le coup, je suis anticapitaliste et je considère que le système de productivité nous arnaque, encore plus en tant que minorité, en fait. Mais je pense qu'on peut... Il y a des endroits où c'est possible de voilà, négocier, illusionner. C'est pour ça que les parcours de transfuge de classe m'inspirent énormément, en fait. Parce que tu ne te départis jamais de ta classe, en fait. Donc, qu'est-ce que t'amènes dans ces espaces-là ? Moi, quand je vais dans des espaces de riches, mais c'est un choc, quoi, en fait. C'est un choc pour eux, c'est un choc pour moi. Il y a des choses qui se passent et que je trouve trop précieuses, en fait, à raconter, même à partir d'un point de vue anticapitaliste. Parce qu'encore une fois, c'est pas que de l'argent monétaire, en fait, dont on parle. C'est toute une culture.
Dans chacun de tes chapitres, tu commences par décrire une scène de la vie quotidienne. Tu vas vraiment dans le détail, dans le côté sensuel. C'est un mot que tu peux utiliser beaucoup... Dans qu'est-ce qui se passe dans toutes les petites interactions avec les gens et tout. Et après, tire des fils pour aller vers des questions plus collectives, politiques, etc. Voilà, donc il y a plusieurs scènes que tu décris qui sont dans des restos de luxe, des hôtels de luxe, et tu parles pas mal de sexe. Est-ce que c'est un choix marketing ou est-ce que c'est un choix politique ?
J'adorerais être la Nabila du monde militant, hein, tu sais. Oh là là, ce serait génial. Mais bon, on n'est plus à une époque où les sextapes, ça peut vraiment être bankable. Je pense que c'est devenu normal, en fait. Tout le monde s'envoie des nudes tout le temps. J'ai plus ma chance. Dommage. Donc non, il y a un côté marketing, je sais pas. Je crois pas que j'ai pensé à ça en mode marketing. Je pense que j'ai un côté un peu... Oui, m'as-tu vu ? Après, je suis cancer aussi, donc voilà, j'adore avoir l'attention sur moi, c'est très viscéral. Mais non, je crois qu'en fait, j'avais vraiment envie de ramener la discussion, le dialogue écoféministe à des endroits, peut-être crus, peut-être c'est ça le mot, ou un peu, je sais pas, du corps, quoi. Moi, par exemple, je considère pas du tout que je parle beaucoup de sexe dans le livre, tu vois. Genre, mais tu vois, c'est vraiment des perspectives, quoi. Mais par contre, je pense que par rapport à un livre sur les écoféminismes, auquel on s'attendrait, je parle énormément de sexe. Mais j'amène ça, en fait, pour dire pourquoi on ne devrait pas parler de cette dimension-là. En fait, dans l'écologie... Alors, je ne vais pas faire une définition de l'écologie, ce serait aller trop loin, mais... En fait, on parle vraiment de coopération des corps ou de compétition, ou de comment des corps, en fait, peuvent, de façon interdépendante, évoluer, et c'est quoi leurs interactions au quotidien, à l'échelle individuelle, de groupe, enfin, je ne sais pas, de micro-organismes, et en même temps de méga-collectivités, quoi. Et toutes ces couches-là, toutes ces épaisseurs... Ces différents niveaux d'analyse écologique, en fait. Moi, je trouve ça hyper excitant, stimulant. C'est comme mettre un microscope, en fait, à plusieurs endroits. Sauf que, en fait, tous ces trucs-là qui meurent, qui se mouvent, qui évoluent, qui s'entretuent, en fait, font du sexe aussi. Enfin, du coup, la question, en fait, du sexe dans l'écologie et de pas de la reproduction, du sexe, hein, tu vois, qui peut être lié, hein, mais qui est pas nécessairement équivalente, elle manque, quoi. Et dans les écoféminismes, enfin, désolé, on parle de meufs qui se foutent à poil, font de l'écosexualité, on a des histoires lesbiennes, il y en a partout. Enfin, je trouve ça abusé, en fait, qu'on fasse comme si on était encore une fois dans une théorie très propre. Très... Non, en fait, tu vas dans une ZAD ou quoi, et les gens, ils niquent tous les soirs. Enfin, c'est abusé de faire comme si c'était pas une dimension de notre militantisme, de nos corps et de nos désirs, en fait. Et dans un monde, alors, je sais pas si on peut dire post-patriarcal, mais en tout cas anti-patriarcal, au moins, qu'est-ce qu'on fait de ces désirs-là ? Qu'est-ce qu'on fait de ces fantasmes, en fait ? Alors qu'on est pétri dans une culture méga hétérosexiste, on est imprégné de ça, en fait. Moi, je le suis. Je sais pas pour vous, mais moi, je le suis. Et je trouve que ne pas en parler, ça ne remet que des tabous, en fait, sur des endroits de honte. Tu vois, réactivation des trucs comme la classe, en fait. T'en parles pas, tu t'en départis et tu vas vers une espèce d'endroit très pur et très cohérent, en fait, qui pour moi est un endroit mortifère. Enfin, la vie n'est pas comme ça, en fait. Et du coup, de se séparer du sexe comme ça, comme si c'était juste une partie de nos vies, me fait vraiment chier. Je trouve que c'est pas honnête. Je trouve que c'est hypocrite. Encore plus dans un mouvement écolo, encore une fois. Parce qu'on parle de corps et de comment ils se frottent, en fait. C'est quoi leur manière de communiquer. Et, ah oui, peut-être, j'ai pas trop dit ça, mais en fait, par sexe, j'ai vraiment une définition très large du sexe. Hein. c'est pas nécessairement un acte génital de pénétration, hein, voilà, ça peut être plein d'autres choses. Genre, c'est pour ça que j'invente ce terme, mais oui, en fait, j'invente un terme qui s'appelle héros politique à l'intérieur. Parce que je parle de l'érotisme, mais l'érotisme, en fait, ça a été mal travaillé, je trouve, c'est pas... Voilà. Mais du coup, l'érotisme, c'est le plaisir des corps. En fait, comment... Qu'est-ce qui me fait mouiller? Qu'est-ce qui me fait bander? Qu'est-ce qui me fait... Même dans la vie, au quotidien, en fait. Hein, c'est même pas forcément... Et comment ça se traduit, en fait, dans une communauté soutenable que j'ai envie de proposer, qui est, en fait, le projet de tout projet... Enfin, qui est le but de tout projet écologique. Donc, parlons cul. Non, pas là, hein, calmez-vous. Non, parlons cul, et pas, justement, en termes marketing ou en termes sensationnalistes, en fait. Parlons cul à partir d'un endroit où on peut vraiment travailler nos désirs, nos fantasmes, nos manières d'habiter au quotidien, nos manières de désirer. Et là, pour moi, on a déjà fait un travail de ouf, quoi. Et pardon, je vais terminer là-dessus. La question du sexe, pour moi, elle me permet aussi de mettre au centre le sujet du travail du sexe comme étant super important dans la préfiguration, on va dire, d'une société, alors j'en sais rien, inclusive, je sais pas c'est quoi les mots qu'il faut dire. Voilà, en gros, ce que je dis, c'est que le cul est omniprésent déjà de base, en fait. Il y a des personnes qui sont expertes, en fait, de ça, qui sont les TDS. Et c'est les personnes, un des groupes les plus conspués, en fait, tout compris, quoi. Du féminisme, de l'écologie, d'un. Alors qu'en fait, ce qu'elles font, c'est que littéralement, c'est des pourvoyeuses de soins sexuels, en fait. Donc, tu vois, si on est en train d'imaginer notre monde de demain, comment faire la paix avec ses désirs, etc., on a tout intérêt à les ramener dans la conversation. Donc, c'est ça, en fait, le but, enfin, un des buts, en tout cas, avoué, de dire, il va falloir qu'on s'adresse à elle, à un moment donné, et les considérer comme des interlocutrices légitimes dans cette discussion.
Merci beaucoup. Voilà, le public brûle d'envie d'intervenir. Alors, tu as dit que tu étais cancer ?
Oui.
C'est quoi ton ascendant ?
Sagittaire, évidemment. Ouais, évidemment. Sinon, je serais trop timide.
Il y a un chapitre sur les spiritualités. Et le titre, c'est « Mais en vrai, tu n'y crois pas à l'astrologie quand même ?» De la place des spiritualités dans les écoféminismes. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce chapitre-là ?
Oui, alors je sais, l'astrologie, ça divise, c'est clairement. Parce que là, en ce moment, c'est un peu aussi vachement dans le monde queer, militant queer, c'est un peu the bye, quoi. Et donc, t'as les queers aigris en mode, mais fermez vos gueules, j'en veux plus de l'astrologie. Et t'as celles qui sont genre tout foufou, yes, trop bien, toi t'es quoi, moi je suis quoi ? Donc voilà, je sais que c'est une question qui divise. Donc en fait, je vais pas forcément parler de l'astrologie en soi. Mais comme je trouve que c'est une spiritualité qui est... qui a des racines occidentales aussi. En fait, ça permet aussi d'éviter l'appropriation culturelle. Parce que tu vois, typiquement, parler de yoga, c'est no way, en fait. Enfin, tu vois, En fait, toutes les écoféministes qui basent leur truc sur le yoga, pour moi, c'est pas possible. Genre, j'arrive pas, en fait, je suis désolée. Je pense qu'on a beaucoup d'autres manières et qu'il y a des traditions européennes, celtiques, qui sont immenses, en fait, dans la culture blanche. Et vraiment, c'est vrai. Et je trouve que ça devrait être plutôt un endroit où les gens devraient être plutôt contents, en fait, d'aller puiser. Je crois qu'il faut visibiliser ça, en fait. Spiritualité n'est pas égale à je vais aller piocher, en fait, dans toute cette espèce de folklore très exotique et raciste, en fait, hein, du monde. En fait, pour moi, il y a des traditions qui sont très... Tu parlais de territoire, mais vraiment liées au territoire et à la marginalisation des peuples, même au sein de l'Europe, en fait. Mais bref, on va pas aller là-dessus. Par rapport à l'astrologie et à la spiritualité, je vais aller très vite parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais beaucoup parler et c'est pas le but. Je l'ai un peu dit plus tôt, en fait, je ne pense pas qu'on puisse imaginer un projet d'écologie politique sans penser à la question spirituelle. Enfin, vraiment, j'ai essayé de retourner le truc dans tous les sens dans ma tête, j'ai vraiment essayé. Je vois pas, notamment par la question des morts, en fait. Ça, j'en ai parlé un peu plus tôt. En fait, on est dans un moment où les morts et les mortes autour de nous se comptent de plus en plus. Covid aussi, mais en fait, quand t'es dans certaines communautés, moi, typiquement, la communauté TDS, en fait, bah, nos mortes, on les compte toutes les années, en fait. Hein. Enfin, c'est extrême, la violence qui s'abat sur ces corps, en fait. La violence coloniale, les corps qui ne peuvent pas être rapatriés. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là de qu'est-ce qu'on fait des corps morts autour de nous. Pour moi, on ne peut pas gérer cette question sans parler de la spiritualité. Et peut-être qu'après, j'ai une vision très large de la spiritualité. Hein. Pour moi, ça ne veut pas du tout dire croire en Dieu ou pas, par exemple. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement ça dont je parle. Donc, en gros, comment vivre dans un monde où on fait honneur aux invisibles, en fait ? Et là, pour le coup, tu reconnectes avec une tradition non occidentale, en fait, très vite. Moi, j'ai commencé à lire des textes, des poètes soufis à partir de ce moment-là, en fait, alors que jamais j'avais foutu le nez dedans, à partir de la question des morts et des mortes. Et je pense que tout le monde, ça doit y faire face un jour. Enfin, tout le monde va être en deuil à un moment, quoi. Si ça n'a jamais été le cas, ça va arriver. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Quand on refuse les 7 étapes du deuil qui sont censées nous faire revenir à la normale dans un truc capitaliste, en fait, où tout va bien. Comment on vit avec ça ? Comment on vit avec la mort et comment on l'honore, en fait ? Nos morts et nos mortes autour. On est dans des générations de militants et militantes où Pour moi, on se connaît un peu tous, en fait. Hein, en France, Belgique, Suisse, on n'est pas très grands dans nos rangs. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand d'autres pandémies vont décimer nos... J'allais dire mes miens, mais je ne sais pas comment on peut dire. Les nôtres. La vie des nôtres, en fait. Non, mais clairement, c'est ça. Tu vois, comment on est outillé pour faire honneur à ces, ces histoires et les garder, au-delà de faire des archives militantes, en fait. Moi, je parle vraiment de, ouais, de rituels. Et ça, tout le monde en fait. Hein, toutes les... Croyant ou pas, tout le monde a des petits rituels vis-à-vis des morts et des morts qui nous entourent. Donc voilà, la question de l'astrologie, pour moi, c'est juste un des nombreux ponts pour honorer en fait l'invisible et pour essayer de communiquer en fait différemment que par des canaux très normés. Donc typiquement, dans le livre, je dis, en fait, je préfère te demander c'est quoi ton ascendant ou c'est quoi ta lune, plutôt que combien tes parents y gagnent en fait et où t'es né. En fait, je trouve que ça décale comme ça la façon dont on va apprendre à se connaître. Et peu importe en fait qu'elle soit vraie ou pas, parce que quand je te demande combien tes parents y gagnent, ça va pas non plus me renseigner sur qui tu es en fait. Du coup, que tu me dises que t'es cancer, c'est toi. Voilà. Et ben en fait, la façon dont, je sais pas, ça nous permet de nous lier en fait de manière juste différente et non normative. Et ça, pour les queers et pour les marginalisés, les minorisés, c'est hyper essentiel. Moi, j'ai vu des queers se sortir de dépression grâce à l'astrologie, en fait. Donc, je peux pas faire comme si c'était pas un outil qu'on allait prendre. Et surtout là-dessus, les dominants, ils ont zéro pouvoir, quoi. Tu vois, il y aura pas de police de la spiritualité, ça c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce qu'on vit dans un monde matérialiste complètement, genre 100% en Europe. Du coup, si on commence à s'intégrer à ça, si on commence à aller voir de ce côté-là ce que la spiritualité et l'invisible peut nous donner, pour le coup, en face, on a personne quoi. Enfin, genre, on est illimité en termes de pouvoir. Je sais pas si t'as déjà lu tous les trucs que Starro qu'elle fait, tu vois, les, comment on dit, les circle dances, non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. Bref, elle fait des espèces de danses énormes en fait dans les manifs où elle invite les gens avec une espèce d'énergie comme ça à se lier et faire des immenses cercles de plusieurs centaines de personnes et elle explique en fait l'énergie qu'il y a là-dessus. Les keufs en face, ils savent pas quoi faire en fait. Tu vois, c'est ingérable, on ne sait pas à quoi on a affaire. Donc je pense que là-dessus, même en termes de pouvoir, de puissance, il y a quelque chose à jouer d'hyper fort.
Ok, super. Eh bien, là, ça me donne envie de ce que tu m'as dit. Est-ce que tu... Je ne sais pas si tu as lu Starbuck. Alors, moi, pas du tout.
Ok.
Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai fait partie quand même pendant un an d'une asso écologique et je ne me suis jamais définie comme écolo pour autant. Et notamment, c'était effectivement des milieux extrêmement blancs où je me suis dit, il manque quelques petits trucs, genre l'anticapitalisme, le féminisme et puis les questions décoloniales, quoi. Et du coup, vraiment, je n'ai jamais réussi... Enfin, mais je ne me suis jamais identifiée, en tout cas, à être écolo, alors que le féminisme... Beaucoup de gens commencent par dire non, mais je ne suis pas féministe. Mmh. Et finalement, bon, bah, 2-3 ans plus tard, se revendique du féminisme. Ça ne m'a pas fait du tout ça, dans un truc... bon, mais en fait, vraiment, je n'ai pas les moyens de me sentir appartenir à ce groupe. Du coup, voilà, moi, je manque complètement de références sur la philosophie écolo, sur les... Voilà, enfin, moi j'étais plutôt dans des trucs de faire des trucs, tu vois, faire des potagers, faire des... visibiliser des outils, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Rencontrer des gens, réparer des trucs plutôt que les jeter, enfin des trucs comme ça. Et dans ton livre, bah, par exemple, il n'y a pas tellement de historique, bah, tu nous as expliqué pourquoi, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un livre sur tous les angles morts de l'écoféminisme. Et que du coup, tu ramènes, que tu as vraiment une volonté de ramener du coup toutes les personnes que ce milieu marginalise au sein de l'écoféminisme et de dire en fait tout ça, bah, c'est central, alors que d'habitude c'est mis à la marge. C'est ça ?
Oui, je pense qu'il y a un peu ce geste, mais je tiens vraiment à dire que c'est les écoféminismes blancs mainstream qui font ça en fait. Et j'aurais pas envie de donner l'impression que c'est tous les écoféminismes. Mmh. En fait, tu t'intéresses aux écoféminismes africains, et il y en a en fait, hein, vraiment, il y a même des collectifs et tout. Ce qu'elles produisent, tu vas juste sur leur site, t'es là. Ok, en fait, vous avez tout dit. Donc, je pense que c'est aussi important de juste se resituer, de dire, ok, donc en France, on manque de ces discours-là, mais par contre, à l'échelle des Suds, en fait, enfin, tu vois, les anti-extractivistes d'Amérique latine, les anti-pipelines et les peuples autochtones en Amérique du Nord, en fait, désolé, mais il y a tout qui a été non seulement fait en termes de lutte, et ça, je te rejoins hyper fort, en fait, moi, la théorie, je l'ai par défaut parce que bah, voilà, je suis en doctorat de philo et qu'en fait, j'aime ça. Mais je ne considère pas du tout que ce soit un volet essentiel en fait, dans ta façon de militer en, fait, en tant qu'écoféministe. Pas du tout. Mais pour le coup, ça donne quand même accès à des mémoires, encore une fois, parce que pour moi, on a besoin de mémoire. Je ne vois pas comment on peut faire un mouvement en partant de rien. Et du coup, ça nous déracine. Mais par contre, ces mémoires-là, donc, quand on y accède via l'écoféminisme mainstream, elles sont totalement lisses et totalement blanches et totalement... je sais pas, encore une fois, pas incarné en fait, très théorique, et ça marche pas. Du coup, pour moi, peut-être avoir ces références-là, et ça, c'est ce que j'ai fait dans le livre, en fait, j'ai vraiment essayé de donner quasiment que des références de personnes racisées, en fait. Des personnes queer, des personnes trans, des personnes, encore une fois, qui sont marginalisées. En fait, elles sont pas marginales, elles sont marginalisées, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand tu vas dans ces espaces-là, donc typiquement éco-queer, éco-sexe aussi, en fait, c'est au centre du truc. Et finalement, les éco-féminismes mainstream, ils sont loin là-bas, tu vois. Donc, je trouve que c'est quand même important de juste à chaque fois se dire que où tu bouges, ça redéfinit qui est au centre et qui est à la marge à chaque fois. Et en fait, l'idée dans ce livre, c'était pas forcément de dire « Hey, regardez, vous êtes éco-féministe aussi », mais c'est de dire « On peut utiliser ce mot ». En fait, on a le droit, et moi j'en ai marre de voir des gens se dire « Alors moi, je suis pas féministe parce que, bah, en gros, c'est le féminisme blanc libéral qui a gagné. Moi, je suis pas éco-féministe parce que c'est les écolos de merde qui ont gagné. Moi, je suis pas antispéciste parce qu'en fait, c'est les antispécistes blancs. Bah, » en fait, à quel moment les dominants, les colons, vont nous dicter, en fait, les termes de notre lutte ? Genre, c'est pas... Pardon, je m'énerve, en fait.
Ah ouais, t'es... Faut pas qu'il passe.
Non, non, mais en tout cas, je dis pas qu'il faudrait que faire ça, mais je pense qu'on devrait aussi, à un moment donné, s'autoriser à dire, bah non, en fait, visibiliser tous les autres collègues, chercheuses, militantes qui font du taf avec ces termes sur le terrain et dire, en fait, non, on existe et on va exister au même endroit que vous et on va produire du savoir et en fait, c'est vous qui allez devenir lointain et on va même pas vous citer, en fait. Et tu vois, tu disais l'histoire de l'écologie, mais à aucun moment je cite tous les mecs... de la naissance de l'écologie, ce qu'on t'apprend à bouffer en philosophie environnementale pendant 5 ans, quoi. Et je ne le ferai pas. Et un jour, j'avais dit ça dans une avancée de travaux de thèse. J'avais dit, je ne vais pas faire la référence au père de la philosophie. Et ma directrice de thèse, elle en pouvait plus, quoi. Elle avait dit, vous pouvez pas faire ça. En France, c'est hyper dur de faire ça, en fait. De tuer le père. Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois. De dire, en fait, on peut démarrer avec nos références. Moi, j'ai assez de références féministes décoloniales, en fait, pour faire juste fi de ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai besoin de revenir à ça ? Pourquoi j'ai besoin de donner leur nom de... En fait, non. Faut vraiment moi, je pense qu'on apprenne à se faire confiance, en fait, là-dessus. Et on peut le faire. Du coup, le livre, c'était un peu ça à dire. Si vous voulez, en tout cas, parler écoféministe qu'à partir d'un point de vue quotidien, de pratique, d'école... Mais en fait, c'est possible. Je dis pas que tout le monde doit le faire. C'est pas du tout mon but. Mais en tout cas, c'est possible.
We'll be right back.
ça recommence. La présentation du livre de Myriam Bahafou, Des paillettes sur le compost, avec La vie des nôtres à Maison Blanche. Maintenant qu'on a fait tout ce tour-là, quand même ce 360 dans ton livre, autour de ton livre et de ce dont tu parles, est-ce que tu pourrais nous faire un court...
Non, pardon. Ok, tout le monde part. Allez-y, c'est maintenant.
Non, pas court. Tu prends le temps que tu veux, tu as 10 minutes. En... Mais pour parler, faire ton historique de l'écoféminisme.
Non, en fait, je vais parler de ce que je connais. En fait, en général, on date l'écoféminisme déjà des années 80. C'est ce qu'on dit, 70-80. Ce qui, déjà, moi, me pose un problème. Ça me pose un problème parce que ça fait comme si la colonisation n'avait eu aucun rapport avec les écoféminismes. Ce qui est totalement faux, en fait. Parce que les effets de la colonisation ont aussi été des effets patriarcaux. Ça, on a peut-être tendance à l'oublier aussi. Maintenant, je ne suis pas du tout dans la pensée décoloniale qui tend à prouver ou à essayer de prouver que le patriarcat est arrivé avec la colonisation. Je ne pense pas ça et je pense que c'est assez dangereux en fait, de penser ça. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, je pense que de dater la naissance des écoféminismes des années 80, 70-80, les place d'office en fait, dans un contexte occidental, notamment à cause de la guerre froide. En fait, c'est ce qu'on dit en général, qu'il y avait ces deux espèces de grosses superpuissances-là qui sont très... très masculine, très patriarcale. Ce que je dis en général, c'est qu'on était vraiment dans une période où on essayait de savoir, de montrer qui avait la plus grosse bombe. Et c'était vraiment ça, en fait, la guerre froide. Et là, il y a eu effectivement des soulèvements, des prises de conscience qui se sont dites écoféministes. Et c'est peut-être ça la différence, en fait. Et en fait, on a fait comme si l'écoféminisme, avant ça, n'existait pas du tout. Et donc, ça a eu lieu globalement dans des luttes antinucléaires. C'est ce qu'on dit en général. Avec la Women's Pentagon Action en 1980, avec le Green Ammo Common. Donc, le Green Ammo Common, c'est une base militaire qui a été occupée par un camp en non-mixité des années 80 à genre 2002. Quoi. Enfin, c'est énorme. C'est un camp pour la paix qui est en Angleterre, pardon. Ça avait rarement existé à l'échelle politique, juste des femmes, des bonnes femmes. Ça, c'était vraiment des femmes qui venaient et qui ont abandonné littéralement leur mari et leur gosse à la maison. Quoi. Enfin, c'est assez ouf hein, quand même. Il faut se remettre dans l'époque. On est dans les 80, des nanas qui disent en fait, non, je vais aller me battre pour la survie de la planète, en fait. Et qui vont occuper cet endroit, sauf que ça dure 20 ans. Quoi. Donc c'est énorme. Et du coup, les récits qui sont à cet endroit, les archives qu'il y a là, elles sont hyper précieuse, quoi. Donc voilà, en général, c'est ça qu'on nous apprend, mouvement antinucléaire. Et on dit aussi le mouvement Chipko. Donc, mouvement Chipko en Inde, pareil, je dirais que c'est fin 70. Je sais pas exactement, mais je dirais que c'est fin 70. Où il y a un projet de déforestation énorme dans la région de Garhwal. Et en fait, à partir de là, tu as des femmes qui se mobilisent pour défendre la forêt et qui vont faire, pareil, une occupation. Sauf que le mouvement, après, se propage, en fait, dans toute l'Inde et devient un vrai mouvement contestataire contre... Bah en fait, ils vont dire contre le capitalisme, mais en fait, pour moi, c'est aussi contre la colonisation, tu vois. Et le fait de mélanger ça, en fait, aux autres, c'est comme si ça éradiquait cette donnée et ça la diluait, en fait, dans cette espèce de grand projet transnational. Je ne crois pas ça, en fait. Je pense que les premières écoféministes, on pourrait tout à fait les dater des premières luttes paysannes. Et donc ça, voilà, c'est peut-être un des premiers points que je tiens à dire. Paysannes, donc vraiment en rapport à la terre, à la subsistance, à l'autonomie alimentaire, qui, pour le coup, sous la colonisation, a été... complètement bouleversé en fait. Hein. Et pas que en termes de juste annexion de territoire, mais aussi introduction de nouvelles espèces animales, introduction de nouvelles espèces végétales. On a privé pas mal de populations autochtones de prendre en fait certaines plantes médicinales considérées comme diaboliques. Là, on pourrait aussi faire toute l'histoire de l'usage des psychédéliques et des drogues, enfin ce que nous on appellerait drogue aujourd'hui, mais qui sont des plantes en fait psychédéliques, qui occupaient des rôles de sacrés en fait dans certaines cosmologies. Donc voilà, en fait, tout ça, en fait, pour moi, ça participe déjà des écoféministes. Donc c'est hyper dur de dire, tu vois, quels sont les points saillants. Mais de base, en fait, effectivement, j'aurais tendance à peut-être placer les luttes antinucléaires comme très lointaines, en fait, dans la timeline écoféministe. Et donc de placer effectivement le mouvement Chipko, le mouvement Green Belt Movement, au Kenya. Avec Wangari Maathai qui est genre super connue, sauf qu'en fait on dit juste ah Wangari Maathai elle a fait le mouvement Green Belt et voilà, et en fait on dit rien d'autre. Et tu vois, ça pour moi c'est vraiment alors que tu peux trouver mais des tonnes de livres sur les antinucs, tu vois, aux États-Unis, et on va pas me faire croire que c'est parce que notre culture elle est plus proche. Je suis pas du tout sûre que notre culture elle soit plus proche d'une culture états-unienne que d'une culture kenyane aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une tokenisation en fait de ces luttes là et du mouvement Chipko et du Green Belt Movement qu'on aurait tout intérêt à retravailler. Moi j'attends les livres, les traductions, les recherches en fait, qui vont s'intéresser à ça aujourd'hui pour justement reframe. Ah non, on a le droit de dire des mots anglais ou c'est pas bien. Ouais.
On peut traduire okay. aussi, redéfinir.
Ouais, comme recalibrer, voilà, la ligne de temps écoféministe. Maintenant, si on veut travailler dans un niveau beaucoup plus local, je pense qu'il y a des luttes. Après, c'est vraiment des luttes. Alors, comment ça s'appelle ça ? Évidemment, je l'ai oublié. Dans les années 90, alors ça devait s'appeler quelque chose comme People of Color Environmental Summit, donc le sommet des populations, peuples de couleur sur les questions environnementales. Et ça, en fait, c'est un truc de ouf. Donc, c'est dans les années 90. T'as tout plein de leaders, de figures antiracistes hyper importantes qui vont se réunir aux États-Unis et qui vont parler des questions environnementales, tu vois. Et ça, je l'ai appris il y a peut-être un an, en fait, que ça existait. Et tu vois, c'est ouf de dire, on a cette histoire-là, genre elle existe, mais elle est très peu mobilisée et elle est hyper invisibilisée, quoi. Donc je pense qu'on pourrait totalement refaire une histoire, en fait, antiraciste, transnationale, des questions environnementales aujourd'hui, et donc qui sont des questions écoféministes, de fait. Et donc je venais à ma question beaucoup plus locale en France, mais en France, tu vois, il y a des luttes, typiquement ce que fait Fatima Wassak, peut-être qu'on en parlera un peu après, voilà, avec tout son combat pour les repas végétariens à la cantine. Peut-être qu'on racontera l'histoire après, mais en tout cas sa position et ce qu'elle fait aujourd'hui, donc elle a créé, elle a co-créé d'ailleurs, c'est pas bien de dire elle l'a créé, j'en sais pas, un endroit qui s'appelle Vert Dragon et qui est vraiment axé sur l'écologie populaire. Et ça, tu vois, pareil, ce terme on l'avait pas trop en fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire écologie populaire? Qu'est-ce que ça veut dire que faire de l'écologie dans des quartiers? C'est quoi? On sort des trucs de accès à la nature ou végétalité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire dans les mentalités en fait que de travailler une écologie à partir du peuple? Donc ça, pour moi, c'est totalement dans mon imaginaire écoféministe, en fait, aujourd'hui. Mais il faut lutter, quoi, parce que c'est pas évident du tout. Tu parlais de Malcolm Ferdinand. Enfin, tu vois, pareil, moi, je le mets... Bon, après, la question féministe, elle est présente, mais bon, pas autant qu'on pourrait s'y attendre. Mais il rentre complètement dans ça. À l'échelle plus encore particulière, tout ce que font les échos queer aujourd'hui... Et d'ailleurs, il y a un livre de Si le cerf maupoix qui est sorti, pas très longtemps, qui s'appelle « Écologie déviante », je crois. Voyage en terre queer, quelque chose comme ça. Le sous-titre, je sais plus. Mais voilà, en fait, si tu veux, pour moi, c'est hyper difficile de créer une ligne avec des événements, parce qu'en faisant ça, pour moi, c'est déjà définir une histoire hégémonique. Parce que tu es en train de définir qui fait l'histoire, en fait. Et ça me dérange déjà. Parce que même si on fait ça, du coup, tu vas toujours trouver des sous-couches, en fait, de lutte à l'intérieur des luttes, où en fait il s'est passé extrêmement de violence à l'intérieur de ces luttes-là, et en fait pourquoi on ne devrait pas dire celle-ci ou celle-là. Donc je crois que la manière de penser écoféministe, déjà, elle dit adieu en fait à ça. Et c'est pour ça que pour moi elle est beaucoup plus locale, donc je pourrais te parler de ce que font mes potes en fait, tu vois. Mais est-ce que c'est des événements dans l'histoire écoféministe? Je ne pense pas, et je pense qu'on n'en a pas envie. Moi j'ai vraiment envie de sortir de ce truc très linéaire en fait, et de montrer plutôt les foisonnements qu'il y a pu avoir et les espaces contestataires à l'intérieur même de ce qui est censé faire foi ou faire consensus, tu vois, dans les trucs écoféministes.
Quand même, je vais dire pourquoi je pose cette question. C'est aussi, comme tu l'as dit, l'impression que la question de la transmission dans nos luttes est une question très importante, notamment dans les luttes antiracistes. C'est là où j'ai pu le rencontrer vraiment très fort, une difficulté à trouver de la continuité dans les histoires et même dans le féminisme. Du coup, tu dis raconter ces petites histoires dans les grandes histoires. Enfin, voilà, je te propose à l'occasion qu'on fabrique notre abécédaire ou
dictionnaire
de nos luttes. Bah déjà, je vais décrire le livre parce que, okay. Eh ben oui, on est à la radio, les gens ne voient pas. Et je me suis rendu compte que ces derniers jours, à chaque fois que je disais ah ouais, non, tel livre, et les gens me conseillaient des livres et tout le monde se mettait à me décrire la couverture.
Oh, wow.
Du coup, est-ce que tu veux le décrire?
Oui, je peux, parce qu'en plus, je me suis battue pour la couverture, pour le coup. C'était pas censé être ça au début du tout. Ça représente comme un geyser, on pourrait dire, une espèce de traînée comme ça, qui peut représenter les paillettes, d'ailleurs. Parce que la couverture, du coup, le fond est noir, bleu, foncé, et le jaillissement comme ça qu'il y a dessus est couleur or, qui fait un énorme clin d'œil à tout ce truc de luxe et de paillettes et de shinance que je ne quitterai jamais, en fait. Même dans l'écologie la plus austère qu'on voudra m'imposer. Et non, il y avait aussi un petit... Alors, est-ce que je peux dire ça? Oui, on a dit qu'on pouvait parler de cul, donc on a le droit. Mon nom de militante, c'est Cyprine, en fait. Et du coup, ça représentait métaphoriquement aussi une espèce d'éjaculation, en tout cas de la mouille ou je ne sais pas quoi. Et du coup, j'aime beaucoup penser ça, que ça gicle partout et que ça éclabousse. Et pour moi, c'était une très belle manière de mettre les écoféminismes là, de... Je te gicle ça, quoi. Donc voilà.
Ok, bah on a bien fait d'en parler parce
là,
que. Franchement, c'est parti. Enfin, c'est à côté de quelque chose. Mais on m'a jamais posé cette question. C'est la première fois que je dis ça.
Okay.
De toute la tournée. C'est la première fois que j'explique ça. Donc vous avez vraiment
l'info
pour
vous, Toulouse.
Voilà. On est content. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, je sais plus.
Ouais, j'étais perdue. Hein.
J'arrête pas de prendre des notes dans tous les sens pendant notre discussion. Alors oui, ah bah si, faudrait que les gens ils repartent comme dans ton livre avec la besace. T'as deux livres ou podcasts ou films à voir, lire, écouter pour que nos auditeurs repartent et nos spectateurs repartent avec quelque chose dans leur besace, parce que chaque chapitre, comme je disais, tu donnes des références. Des fois, il y a plusieurs pages de choses qui à lire ou à voir ou à écouter sur les sujets, ce que je trouve très bien. Comme ça, on peut avoir une petite discussion intime avec toi dans le livre. Et puis, si on veut en savoir plus sur le sujet, on a ce qu'il faut.
Ouais. Je suis en train de regarder mon propre livre pour avoir les références parce que je ne les connais pas de tête.
Tu ne le connais pas encore par cœur?
Je ne connais pas toutes les références, non. Par contre, ce qui était intéressant dans le livre, c'est que j'ai mis que des références que j'ai lues, pour le coup. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tant, en vérité. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses que je connais. Et j'avais vraiment envie d'aller à rebours de tous ces trucs de bibliographie où tu sais, tu as genre 50 pages de biblio à la fin du livre et en fait, tu recraches juste les noms que tu as déjà entendus et que tu sais être classique et tu solidifies un canon, en fait. Moi, je crois que le livre ne fait pas du tout ça et du coup, c'est cool. En fait, les écoféminismes d'une perspective alors, à la fois décoloniale, queer, nanana, à ma connaissance, il n'y a pas de livre ou de podcast qui rassemble tous ces trucs-là en même temps. Autant que je le voudrais, en tout cas. Il y a des choses qui en approchent, mais je crois encore une fois qu'il faut quitter cette ambition de la totalité et du coup se concentrer sur des morceaux qui sont pertinents ou des morceaux qui sont intéressants. En plus, bon, déjà, je peux donner un... Donc du coup, ça sera sur des sujets. Ça ne sera pas sur les écoféminismes en général parce que... Et tu vois, si demain, il y avait un podcast écoféministe décolonial qui venait à se créer, je serais hyper contente, quoi. Enfin, mais peut-être je ne le connais pas. Hein. Peut-être je vais dire, mais non, il existe ce truc. J'adorerais. Mais en tout cas, pas à ma connaissance. Il y a un podcast qui est fait, bon, pour le coup, par des personnes blanches, mais que je trouve tout à fait légitime, en tout cas, de valoriser à cet endroit parce qu'elles font un travail assez ouf en écologie politique qui s'appelle Avis de tempête. Donc, avis comme un avis plus loin de tempête. Et... Elles ont peut-être fait 5 ou 6 épisodes, mais genre en 5 ou 6 épisodes, c'est genre tout ce que... tous les trucs, justement, tu disais, les plus en marge qu'on n'aurait pas forcément pensé en termes d'écologie politique. Donc, mais c'est absolument hyper bien fait, hyper pédagogue aussi. La façon dont c'est dit, les références ne sont pas du tout dans un truc hyper intello où tu dois comprendre ce dont les gens parlent. Et donc un en particulier m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « La patte de la vache, lutte antispéciste au Brésil ». Et qui fait parler une militante qui s'appelle, j'ai pas envie de dire de bêtises du coup, je vais pas dire son nom, de ce que c'est que l'antispécisme populaire. Et moi j'avais jamais entendu ce terme en fait avant. Donc voilà, j'invite les gens à écouter ce podcast en général, mais vraiment celui-ci en particulier parce qu'il est vraiment axé sur la question décoloniale et il met en valeur une personne issue de cet espace-là et de contestation et de production et qui se réclame de l'antispécisme. Et je trouve que c'est hyper intéressant juste pour faire bouger de quoi on parle en fait quand on parle de trucs multi-espèces, animaux, etc. Donc voilà. Et en livre, ok, je vais dire un livre et je vais dire un article. Mais peut-être c'est vraiment que sur les animaux, les gens vont se dire mais elle est obsédée par ça, mais c'est vrai en fait.
C'est là que je suis en train de me dire que je ne t'ai pas reposé la question sur les animaux.
Mais c'est parfait, du coup je vais donner les références, voilà. Donc ça va être bien. Okay. Mais de toute façon, Kaoutar Archi, elle est super connue. Voilà. Et ben en fait, ce qui est moins connu, c'est qu'elle a écrit un article là-dessus sur Ballast qui s'appelle « Les animaux avec nous ». Les animaux par nous, pour nous, je sais pas à quoi.
Et bon, elle prépare le livre aussi.
Comment ?
Elle prépare le livre.
Ah bah monsieur. Voilà, ouais. Trop bien, je ne savais pas.
Bon, bah, c'est... Il y a que des exclus ce soir.
Ouais. Oh mais génial en fait, c'est trop bien. Donc ouais, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à cet endroit qui est en train de se créer, qui est très 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 intéressant, très joli. Et un autre livre encore sur les animaux, de Fahim Amir, qui est... qu'est-ce qu'il est lui ? Il n'est pas sociologue, il est... peut-être qu'il est anthropologue, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il fait un truc comme de l'anthropologie urbaine, c'est assez bizarre. Et en tout cas, il parle des croisements entre lutte des classes et animaux. Et ça, c'est un super livre sur comment les pauvres et les prolétaires, en fait, peuvent identifier, s'identifier ou s'allier, en tout cas, se mettre en complicité avec des luttes animales. Et le livre s'appelle Révolte animale. Le livre s'appelle Révolte animale. Et il est génial. Enfin, j'ai adoré. Par contre, pour le coup, très intello, quoi. Enfin, c'est... Je dirais pas que c'est méga accessible, mais c'est trop bien. Il raconte comment les cochons à New York au 19e siècle faisaient s'évanouir les meufs bourgeoises qui pouvaient pas voir ces animaux envahir la ville, en fait. Comment les animaux sont devenus littéralement des sujets, en fait, de contestation et de destruction d'un ordre établi. Il raconte comment les pigeons chient sur tout le monde, peu importe si t'es président ou pas. Et enfin, bref, il y a tout un truc de comment les animaux font un gros fuck, en fait, au quotidien, à tout ce qu'on essaye de mettre en place pour les parquer, les domestiquer, se mettre à distance. Et voilà, avec un vrai point de vue marxiste là-dessus, donc c'est assez édifiant. Voilà, j'ai pas donné de référence féministe, mais en fait, franchement, lisez le livre. Si vous voulez pas l'acheter ou quoi, c'est OK. Allez dans une librairie, prenez en photo la partie bibliographie. Hein. Enfin, je dis pas ça pour que les gens l'achètent, mais pour le coup, j'ai fait un vrai travail de mettre en valeur des références qui ne sont pas mainstream. Et s'il y a des personnes que ça intéresse, vraiment, allez voir juste dans le livre, à cet endroit-là de la bibliographie, et imprégnez-vous, en fait, de ces trucs-là. Et je pense que quand tu parlais de transmission, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se former mentalement, en fait, à lire d'autres noms, apprendre d'autres noms et penser avec d'autres noms, quoi. Mais ça, c'est le travail de toute une vie, en fait.
Ton livre, tu parles du fait, tu as l'air assez remonté contre les trucs justement individualistes, comme si en fait on allait régler le problème en se responsabilisant individuellement sur des gestes économes, débrancher ses multiprises, éteindre la lumière.
Oui, j'irai assez vite parce que je pense que c'est même presque plus une question aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est du bullshit, quoi. Enfin, parce que pour le coup, même les pays qui arrivent à faire ça, donc tu vois, par exemple, moi j'habite au Canada où c'est genre méga écolo, en fait. Enfin, ça n'a jamais empêché le capitalisme de... Enfin, c'est pas du tout ça la réponse, en fait. En faisant ça, tu uniformises simplement des comportements individuels pour mieux les faire rentrer, en fait, dans un esprit écologique capitaliste, en fait. Enfin, tu vois, c'est de l'écologie de droite, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment le dire différemment. On va juste mieux profiter des ressources. On va le faire de manière plus propre. Tu vois, c'est ça, c'est les mots écologie, énergie propre. En fait, c'est propre pour qui ? Enfin, tu vois, que pour les gens qui la consomment ou qui sont à l'origine de tous ces trucs extractivistes, nucléaires. Non, non. Mais en fait, si tu t'attaques pas aux vraies causes, et là, tu vois, en deux mots, je le dis, en fait, extractivisme nucléaire, en fait, on pourra faire de l'écologie propre autant qu'on veut et avoir des bacs à trier les déchets, que tout le monde fasse les mêmes, et que ce soit super bien, même que tout le monde soit végétarien. En fait, ça ne change pas le paradigme du capitalisme qui est forcément colonial, qui est forcément extractiviste et qui repose sur l'exploitation et la mort, en fait. Enfin, mais je pense que c'est ça, cette écologie-là, elle ne nomme pas ça, en fait, que la mort, elle est au cœur de nos rapports aux vivants, mais pas en tant que personne, en fait, en haut, quoi. C'est-à-dire à l'échelle des gouvernants, des institutions, et en fait, tant que eux, ça sera OK de prendre un jet pour aller voir le match de je ne sais pas quoi, parce que je les vois, les riches, hein, je les connais. Hein. Pour le coup, je pense que j'ai une proximité extrêmement malaisante, dérangeante, mais fascinante dans le monde des riches. Et du coup, je vois les normes qui sont là-bas. Mais eux, ils sont à des milliers de kilomètres de nous, de « est-ce que je dois faire pipi dans la douche ou pas ?» Genre, on est... C'est que ça ne s'applique même pas à eux, en fait. C'est même pas... Mais du coup, j'ai pas envie de dire non plus que la réponse, parce qu'il y a des écolos comme ça un peu... je sais pas dans quelle catégorie on peut les mettre, mais qui veulent plus de sanctions pénales, en fait. Notamment contre les riches et tout, par rapport à leur surconsommation, leur utilisation. Tu vois, les gens qui disent, en fait, si quelqu'un gagne tant sur telle manière, on va dire, d'agresser ou de détruire le vivant, eh ben, il faudrait le ponctionner, il faudrait même le mettre en prison. Si, tu vois, typiquement Amazon, enfin, tous les GAFAM, tout ça. Moi, je pense pas du tout que ça réglera les choses non plus, en fait. De mettre plus de prison et d'être encore plus dans un système pénal, ça se saurait si ça arrange les choses, c'est absolument pas le cas. Donc, en fait, je ne peux que être du côté de la révolution. Genre, je peux pas... J'essaye encore une fois de penser différemment, mais je comprends pas que ce soit possible, comment c'est possible autrement. Et par rapport à ce truc de pauvres, en tout cas, les pauvres ont été les premiers écolos. Ça, on dira jamais assez, en fait. Recycler les trucs, quand t'as un vêtement, ta sœur l'a porté avant, ton grand frère l'a porté avant et c'est toi qui le porte. Mettre les trucs au frigo, au congélateur pour pas perdre. Enfin, en fait, désolé, mais ça, c'est que des codes de pauvres, en fait. On n'a pas attendu Emily Comet Shop, ce machin cosmétique écolo, pour nous apprendre à juste garder des trucs, en fait. C'est juste un principe de base de survie quand t'es dans la merde. Donc aussi, il y a toute une récupération, en fait, classiste de tous ces codes-là, qui maintenant qu'ils sont faits par des bobos cool, en fait, ça devient... Justement, sortir de l'abondance, tu vois. Alors qu'en fait, quand t'as jamais été dans l'abondance, tu sais très bien comment survivre à cet endroit-là. Donc voilà, cette hypocrisie-là, elle est un peu partout. Donc perso, c'est plus du tout des vocabulaires qui me parlent ou quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, tu peux être totalement écolo et pas trier tes déchets. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas là que ça se joue, quoi. C'est pas dans ces endroits de est-ce que tu coches des cases, est-ce que t'es le bon écolo, tu vois, est-ce que t'es assez bien dans cette pureté militante-là, est-ce que... Et du coup, ça veut dire que tu serais autorisé en fait à juste continuer à accepter les normes ultra violentes de notre société. Bah non, en fait. Bon voilà. Désolée.
Applaudissements du public.
Alors pour moi, l'écologie, elle est avant tout politique. C'est un outil qui est au service des opprimés, en l'occurrence des classes populaires. Un outil pour lutter contre les oppressions qu'on subit. Un outil pour lutter contre les oppresseurs. C'est un outil pour reprendre du pouvoir, pour reprendre de l'espace, pour être heureux, pour vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire. Voilà, un outil pour que nos enfants soient plus heureux. Alors les modes d'action, c'est de travailler au quotidien sur des choses très très concrètes, vraiment voilà, des choses du quotidien, travailler sur les territoires. Se réapproprier l'espace public, l'espace commun. Et alors, ce qu'on privilégie au sein du Front de Mer, où je milite, c'est l'action syndicale. Il y a vraiment essayé d'être sur des modalités frontales, dans un rapport de force, notamment avec l'État, avec les institutions, pour essayer de regagner ce pouvoir qu'on nous a confisqué. Mes ressources, alors elles sont politiques, hein, mais c'est avant tout, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mères, de parents, c'est l'amour que j'ai pour mes enfants. C'est-à-dire vraiment cette nécessité, le fait de se dire qu'on ne peut pas laisser ce monde-là tel qu'il est à nos enfants. Et, Et voilà, pour moi, c'est faire sa part et essayer de faire en sorte que nos enfants puissent grandir dans un monde plus juste, plus égalitaire, plus respirable, quoi. Donc c'est de l'espoir, en fait. Voilà.
Je vous laisse commenter. moi, Fatima Wassak, c'est un exemple pour moi. Je trouve que ce qu'elle propose était assez inédit à l'époque où ça arrivait. Et puis, pour le coup, la vague islamophobe qu'elle s'est prise dans la gueule, elle était quand même assez extrême. Et donc, ce combat-là, il a été très vite sous le feu des projecteurs, mais pour les mauvaises raisons, en fait, je trouve. Tout ce qu'elle dit, je m'identifie assez fort. Peut-être pas forcément, et ça, c'est assez intéressant de le noter, en tout cas, c'est pas du tout une dissension, c'est juste un endroit qui me parle pas. Tout ce truc de, tu vois, je l'ai dit, les générations futures, quoi. Qui est pour moi un argument écologique très hétéro, en fait. parce que moi, en fait, j'ai choisi de faire famille différemment. Et du coup, comment, en tant que queer, tu vois, tu peux te sortir de ce truc de nos enfants, etc. Sans pour autant dire que c'est pas valable, hein, parce que peut-être je l'ai pas assez dit, ça aussi, mais dans les luttes écoféministes... Il y a les mères d'Itusengo qui ont lutté contre Monsanto, les mères de Fukushima qui ont lutté contre les effets de la radioactivité après l'accident. Je ne vais pas dire accident, parce que c'est tellement la norme en fait, dans le nucléaire d'avoir des accidents. Mais en tout cas, les mères dans les histoires écoféministes occupent une place extrêmement importante, en fait. Dont en France, on a eu peur de se saisir pour ne pas réactiver en fait, tous ces trucs de maternité, parce que non, c'est pas si féministe que ça. Donc si, de fait, mais je pense qu'écologiquement, ça a quand même un petit peu ses limites quand, encore une fois, tu ne t'identifies pas dans un modèle de reproduction, de faire des enfants, d'avoir des générations que tu laisses derrière toi, en fait. Si tu veux faire famille différemment, disons. Je voulais dire un dernier truc sur ça. Ah, mais je pense que ça m'est sorti de la tête. Mince, je ne sais plus.
Alors, en tout cas, Fatima Wassak, pour dire, donc, a fondé le Front de Mères, donc une asso de mères de quartiers populaires qui lutte pour le bien-être de leurs enfants. Et du coup, notamment, un de ses combats a été lutter pour le bio, cantine ouais. végétarienne. Elle et donc ses compagnes, ses camarades de lutte ont été taxés d'islamistes qui avancent
dans l'ombre, dans les écoles, pour voilà. en fait proposer, parce que l'idée c'était de dire, vous faites ça parce qu'on propose pas des repas halal et que du coup en fait ça nous permet de neutraliser la question, enfin des espèces de projections de la blanchité en PLS, quoi.
C'est ça. Et du coup elle a beaucoup mis en avant ce qu'on retrouve dans ton livre. Du coup, c'est vraiment ce partir de l'intime, partir du personnel, partir de notre environnement direct pour se réapproprier. Donc elle parle d'espace, etc. Aussi de lutte. Voilà, c'est un axe en tout cas qui était dissonant complètement à ce moment-là. Elle a un peu insufflé ça.
Et qui continue. Et aujourd'hui, elle a créé, elle a cofondé, au fond avec d'autres personnes, Vert Dragon, qui est cette maison d'écologie populaire à Bagnolet et qui fait des super événements. Enfin voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ou partager, ou juste visibiliser en tout cas cette lutte parce qu'elle est extrêmement minoritaire. Et voilà ce que je voulais dire à la différence de... Je sais pas trop si c'est une différence, mais moi par exemple, tu vois, je serais incapable de lutter dans un environnement aussi métropolitain, entre guillemets, urbain en tout cas. Moi par exemple, c'est pas du tout des espaces qui me portent et qui me... C'est trop dur, c'est trop violent quoi. Du coup, la violence à laquelle elle doit faire face, moi je peux... En tout cas, je me sens pas au même endroit. Et typiquement, tu vois, un peu plus tôt, j'étais en train de dire par rapport à la question de la classe que oui, pour nous, c'était pas du tout pareil, en fait, de souscrire à cette espèce de sobriété écologique et de cet anticapitalisme très pur. Mais je voudrais quand même peut-être terminer en disant que je suis pas du tout en train de soutenir... enfin, comment dire pour moi, le capitalisme est un horizon beaucoup trop pauvre pour nous, en fait, tu vois. Et même se circonscrire à la ville et se dire qu'on peut avoir des petites batailles, en fait, comme ça, et des petites victoires, pour moi, c'est presque pas assez, en fait. Donc moi, je suis vraiment dans l'optique de créer des ZAD, créer des espaces en non-mixité, racisés, dans la campagne, de vraiment regagner, en fait, ces territoires, enfin, dans la campagne. Il y a une différence entre campagne et campagne, hein. Je suis pas en train de parler dans le no man's land ultime au fin fond de la Creuse ou je ne sais quoi. Mais, encore une fois, pour moi, il faut vraiment s'autoriser, en fait, à peut-être dépasser des endroits où on a été très vite assignés. Et je ne suis pas en train de dire que ce que fait Fatima Wassak, c'est insuffisant. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais il y a un endroit où il faut vraiment être super courageux, voire presque trop, quoi, pour te dire, bah ouais, t'as ta place là-bas, quoi. Enfin, c'est, ça prend un pas, quoi, de se dire, en fait, on a notre place là-bas et on peut proposer quelque chose de politiquement viable et où, on, en fait, on devrait faire de la place pour d'autres alliés. Moi, en fait, mon modèle ultime, ça serait qu'on réussisse à choper une maison. Donc voilà, moi, je suis en train de faire de l'argent en ce moment pour ça, par exemple. De créer un lieu, en fait, qui serait vraiment dédié à ça, qui pourrait accueillir d'autres collectifs, qui pourrait donc soit vivre, enfin, travailler et militer en ville, mais qui aurait besoin, en fait, de s'extraire une fois de temps en temps, juste pour travailler et pour se reposer, en fait. Parce que le rythme militant de la métropole ou juste de la ville, il est horrible. Enfin, pour n'importe... Bon, bref, je pense que là, je fais des... je dis un peu des choses que tout le monde est en mode « Ouais, trop !» Donc oui, je pense que ça, c'est trop sous-estimé et c'est ce qui fait qu'on se crame, en fait, hyper vite, notamment dans les milieux antiracistes et décoloniaux, parce que la ville... Enfin, en plus, quand t'es queer, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se... Et je dis pas que la campagne, c'est une espèce de table rase, tu vois, et qu'on peut tout refaire à zéro, mais juste la temporalité, elle est différente, en fait. Et quand tu décroches et quand tu déroges au système capitaliste aussi fort que ça, en disant, en fait, je vais créer du nouveau ailleurs, complètement en marge, pour moi, vraiment, c'est un niveau personnel et affinitaire, hein. Je dis pas du tout que ça devrait être un modèle pour tout le monde. Pour moi, c'est beaucoup plus inspirant, encore plus, en fait, dans des luttes, voilà, d'écologie populaire, écologie décoloniale, écoféminisme. C'est plus... Je sais pas comment on peut dire ça en français, oser. Plus insolent, en fait, tu vois. Comme, voilà, on arrive et on pose les bails, quoi. Ça, c'est mon horizon d'utopie, on va dire. Where is all the love we used to have for one another? Where is all the love we used to have for one another? Where is all the love we used to have for one another? Where is all the love we used to have for one another? Where is all the love we used to have for one another? Where is all the love we used to have for one another? Wala gigala, wala gigala, wala gigala, wala takujama, wala nyari malaka, wala gigala jige, wala harutu, wala nukayabi, wala kongilinga, wala nukayabi, wala nukayabi, wala kongilinga, wala nukayabi, wala tajabon, tajabon, jabon meka dafeke don beni bahantal. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. The rangers line the floor. The cycle turned to life. A billion jobs in government's war. In time, the trees die and light. We'll fade, but I hope for a new breath. Jump.